Salut à toutes, salut à tous! Bienvenue dans À bout de nerd, votre hebdo vidéoludique sur Radio Campus Rennes. Alors, la semaine dernière, on a eu beaucoup, beaucoup de téléchargements, plus de 10 000 apparemment sur notre podcast, alors c'est vraiment la folie. Vous êtes des centaines en France, des centaines de millions, de milliards peut-être dans le monde à télécharger notre magnifique podcast. Il y avait des gens qui voulaient rentrer dans le studio pour venir nous observer, hein, comment on travaille. Bon, on a refusé parce qu'on a que 10 mètres carrés de studio, mais bon. Hein, ça faisait très Frankenstein quand même, hein, tous en bas avec des torches.
Ouais, je sais pas si c'est bien ou pas en fait. Je croyais, enfin,
bah, ils criaient nos noms.
Ouais, mais les torches, j'ai pas trop compris, mais
bon, c'était parce qu'il faisait noir.
Peut-être comme l'émission de la dernière fois avec le jongleur de torches.
Oui, peut-être. Oui, bah, c'est peut-être une rémanence par rapport à ça, exactement.
Bien vu.
Et comme quoi ils écoutent bien nos émissions.
Je suis content.
Allez, on enchaîne tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Trêve de blabla. Nous passons tout de suite au sommaire.
Alors aujourd'hui dans À bout de nerd, on aura une émission un peu spéciale, donc il y aura un sujet normal comme d'habitude que je vais faire sur Dark Souls. Et ensuite on aura deux sujets communs, enfin le sujet sur Sega vs Nintendo et ensuite un petit débat sur la dématérialisation. Mais en regardant ma fiche, je viens de voir que je me suis gouré, le sujet sur Sega Nintendo est avant le sujet Dark Souls.
Oui, le sujet commun sur Sega Nintendo se place avant le sujet sur Dark Souls.
D'accord, non mais voilà. Et tout de suite, bah, on a les news.
News, protestation tout d'abord. L'association PETA, protectrice des animaux, a publié un communiqué, arrête de rire Alan, expliquant son indignation par rapport à la dernière version du jeu Pokémon.
Attends, alors, oui. Tu te rends compte que ça fait déjà deux semaines que tu t'attaques PETA quand même, faut qu'ils fassent gaffe.
Ah bah écoute, ils ont qu'à arrêter. Hein.
Ces gens sont fous en fait.
Bah ils sont fous.
Ah mais ils attaquent pas que la dernière version en fait, grâce à la dernière version, ils s'appuient sur la dernière version.
Oui justement. Voilà exactement. Alors, révoltée, la PETA dénonce l'utilisation des animaux qui est faite dans le jeu. En gros, elle exprime ce qu'on avait dit il y a deux semaines, à savoir que les Pokémon sont des animaux qu'il faut laisser en liberté sans les faire combattre entre eux. Trop bien la vie, c'est trop cool. Et en gros, ils font une sorte d'apologie du braconnage. Enfin, non. Excusez-moi, ils disent que les jeux Pokémon font l'apologie du braconnage. Ça marche mieux dans ce sens-là. Alors, l'info intéressante qui a été soulevée par le site Le Point, c'est que même aujourd'hui, dans un monde où il y a des consoles de jeux dans quasiment tous les foyers, il y a encore des organismes qui pensent que les joueurs sont incapables de faire la différence entre le jeu et la réalité, et que les enfants qui jouent à Pokémon vont certainement aller chasser des éléphants quand ils auront fermé leur console. La PETA, donc, a lancé un jeu parodique de Pokémon où le but, c'est de maraver votre dresseur, qui est représenté avec une bouteille de vin et une batte de baseball, comme tous les enfants de 8 ans qui jouent à Pokémon, bah, j'ai envie de dire. C'est normal, je veux dire. Tous les enfants, une bouteille de vin et une batte.
T'as 8 ans, tu vois pas de vin, enfin, t'as pas 8 ans.
Bah,
quoi.
T'as raté ta vie, quoi, j'ai envie de dire. Hein.
Écoute, mon gars, c'est clair.
Mais souvenez-vous, c'est pas leur coup d'essai, hein. C'est eux qui avaient sorti la parodie de Super Meat Boy, intelligemment nommé Super Tofu Boy. Eh oui, tu connais pas, bah c'est comme Super Meat Boy, mais avec une barre de tofu. Ça me blase vraiment, vraiment.
C'est pas sérieux.
Si, c'est vrai, c'est vrai.
J'ai entendu parler de ça.
Alors, deuxième news dans la série, le ridicule ne tue pas Harry Potter Kinect.
Oula, oui.
Je pourrais m'arrêter là, et je devrais peut-être m'arrêter là, mais non, bah, je vais
attends,
quand
ça peut être pas mal.
Non, mais attends. Alors déjà, la ganache d'Harry Potter, il ressemble à un mix entre
ouais.
Elton John et Jacouille la Fribouille.
Ouais, alors, ouais,
sérieux, quoi.
L'image de la jaquette
non,
du jeu.
C'est dégueulasse, quoi. Daniel Radcliffe, il doit avoir une honte internationale, c'est abusé, quoi. Et au-delà du fait que je trouve que Kinect, ça sert à rien, moi, je suis un gros fan de Star Wars, hein, et Kinect Star Wars, je renie totalement ce truc, c'est, pour moi, c'est une honte. C'est quoi l'intérêt de Kinect Harry Potter? Beugler devant ta télé, Wingardium Leviosa, en non. Prenant pour Harry Potter,
c'est Leviosa.
Leviosa, excuse-moi Hermione, je me suis trompé. Enfin bon, le fric, de toute façon, on sait très bien que c'est pour ça qu'ils le sortent, hein, le fric pour bien, bien baiser les petits fans d'Harry Potter. Mais enfin, comme vous l'avez compris, pour moi ça vaut pas le coup, c'est abusivement nul, 7/20 sur jeuxvideo.com, je le rappelle. Donc n'y allez pas, hein. Je suis pas de mauvaise foi, mais franchement, n'y allez pas.
Tout de suite, on va lancer la chanson The State of Massachusetts des Dropkick Murphys.
Excuses and she tells man. She was a victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, malicious, and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts. Won't you give this thing a try? If you can and you fail, you won't be the only loser. These kids don't stand a chance with you in their future.
Et voilà, c'était les Dropkick Murphys avec le morceau The State of Massachusetts. Alors maintenant, nous allons partir sur un petit sujet commun qui sera la rivalité Sega-Nintendo dans les années 90. Et là, Alan me regarde avec un regard de tueur en série. Alors, resituons un peu tout ça. Nous sommes à la fin des années 80 et c'est une véritable guerre dans le milieu vidéoludique. La NES et la Master System se partagent la majeure partie des joueurs. Atari et les autres constructeurs sont hors de course depuis très longtemps. Pour faire face au rouleau compresseur de la NES, Sega dégaine la Mega Drive, ou Genesis, beaucoup plus puissante que sa concurrente. Mais ce n'est que dans les années 90 que Nintendo se réveillera et offrira aux gamers la Super Famicom que nous connaissons sous le nom de Super NES. Le plus grand duel de l'histoire du jeu vidéo est alors engagé. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Alors bien sûr, ici, on ne va pas essayer de dire que telle console est meilleure que telle console. Évidemment, Alan et moi, on a chacun notre morceau de pain à défendre. Moi, c'est la Super NES, lui, c'est la Mega Drive. Et il est fort probable qu'à la fin, aucun d'entre nous n'admettra les avantages de la console adverse. Mais on va essayer d'être le plus objectif
possible.
Vous
n'avez pas dit que ça faisait 10 ans que vous étiez en train de vous battre sur le même sujet ?
Oui, non, bon, peut-être.
Non, mais en fait, on a une grosse rivalité toujours, tu vois, c'est... Lui, c'est Super Nintendo, enfin Super Nintendo, si on peut appeler ça une console, bien
oui,
sûr.
Oui, bah moi c'est Mario, toi c'est Sonic, quoi, clairement, c'est ça.
Voilà, Mario Sonic, même hors dehors de ça, on a Captain America, Iron Man, on sera jamais d'accord.
Je crois qu'il y a jamais un truc où on sera d'accord.
Non. Je crois pas.
Non. Bah non, d'ailleurs, tu essayes même d'avoir un droit de regard sur mes propres sujets, ce que je refuse d'ailleurs à chaque fois. Hein. Donc ça matérialise bien cette rivalité qui est constante entre nous.
Bon, allez, vas-y, propose un truc. Alors, que je casse ton argument.
Que je propose un truc. Alors, je vais commencer par l'argument le plus basique que les gens avancent, à savoir que la Super NES aurait un processeur musical nettement supérieur à celui de la Mega Drive. Alors, je ne dis pas forcément que c'est vrai, même si je dois bien admettre quand même que la Mega Drive a des sons qui font très électronique et assez basique, au demeurant très sympathique, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, ce sera le premier argument que j'avancerai.
D'accord. Donc, pour commencer ce débat, si on peut appeler ça un débat, parce qu'un débat déjà gagné par une partie n'est pas un débat.
Bien sûr.
C'est une soumission, je vais te soumettre.
Oui, bien sûr, on va y venir, t'inquiète pas.
Donc, en fait, la musique, oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment un point fort de la Super Nintendo, c'est vraiment la musique, parce que tous les bruits de la Mega Drive ressemblent à des paix, quoi.
C'est vraiment dommage, d'ailleurs.
Bah voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est le seul argument.
Bah surtout ce que je trouve vraiment dommage, c'est que sur certains jeux sur la Mega Drive, notamment Sonic, le son est vachement clair. Ne serait-ce que les bruits quand tu attrapes des anneaux, quand tu te fais toucher, les sons sont clairs et cristallins. Et on perd ça, je trouve, au fur et à mesure des jeux. Est-ce que ce serait pas peut-être une faute aussi, peut-être des développeurs de jeux qui n'auraient pas fait la part des choses pour la musique de leur jeu?
Ouais, je pense, mais enfin. Je pourrais pas trop. Au niveau de la musique de la Mega Drive, enfin. Je m'intéressais pas trop à ça parce que j'ai surtout joué une grande période quand j'étais petit, donc la musique m'importait peu. Mais c'est vrai que quand on regarde une musique de Mario, même je trouve que la musique de Mario sonne toujours plus claire que la musique de Sonic.
Bah disons que Mario, ils ont la chance d'avoir derrière Koji Kondo qui a composé des musiques absolument géniales, comme ce qu'on entend en fond, c'est les musiques de Mario, quoi. Et le problème, c'est que Sega, pardon, ils ont pas eu un compositeur phare derrière eux. C'est peut-être ça aussi un des problèmes de Sega.
Ouais, mais enfin, pour remettre du poids un peu dans mon argumentation, la Mega Drive, elle, c'est vraiment l'arcade. Par rapport à, ouais. On a cette, enfin, je trouve qu'on a déjà cette optique là dans Nintendo, dans la Super NES. De s'adresser à la famille, en fait. Enfin, moi, je trouve personnellement que un Mario est plus accessible
plus
à tout le monde.
Plus familial, peut-être.
Ouais, qu'un Sonic. Puis la Mega Drive est plus badass, tu vois, je trouve.
Bah, c'est les arguments que Sega avançait pour démonter Nintendo. Ouais. C'était genre
Sega, c'est plus fort que toi.
Déjà, Sega, c'est plus fort que toi. Et puis Sega s'est présenté comme une console cool et un peu plus mature, alors qu'il descendait vachement la Super NES en disant que c'était encore enfantin, que c'était une console imaginaire, mais qui prenait les gens un peu pour des enfants, quoi. Et puis on connaît tous le fameux slogan de Sega, Sega does what Nintendo don't, ce que je traduis pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Sega fait ce que Nintendo n'est pas capable de faire, mais il y a un jeu de mots avec le do de Nintendo, Nintendo.
En fait, je trouve que personnellement, chez Sega, ils ont une évolution de console que je trouve largement supérieure à Nintendo, parce que Nintendo était au corps quand Sega était déjà... Parce que sur la Mega Drive, il y avait le lecteur CD, quand même. Et ça, c'est une grosse...
Ouais, mais j'allais y venir là-dessus.
Il n'est pas terrible, d'accord.
Oui.
C'était le 32X. Non, le Mega CD, pardon.
Le Mega CD. Après, on a eu le 32X.
Ouais, mais le 32X, c'était des cartouches encore.
Ouais, mais le 32X, c'était censé convertir la console 16 bits qui était la Mega Drive en console 32 bits, alors qu'à ce moment-là, la Saturn était déjà sortie.
Oui, voilà, ouais, ils ont... Le problème, c'est qu'ils sont vachement... Chez Sega, ils sont plus en avance. Hein. Ils étaient plus en avance... que Nintendo sur bien des sujets, et le problème c'est qu'ils ont mal géré, ils ont vraiment très très mal géré leur
avancement technologique. Je pense que le problème c'est qu'ils se sont empêtrés dans des extensions de console, alors que Nintendo ils sont restés carrés sur leur NES. Bon, ils ont essayé de sortir des trucs quand même, hein, je dis pas le contraire, ils ont sorti la Stellaview, un espèce de modem pour télécharger des jeux, mais ils sont quand même restés sur la base de la Super NES, alors que Sega, ils se sont éparpillés à essayer de sortir des add-ons toujours plus bizarres.
En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont commencé à sortir la 32X et le Mega CD. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais expliquer un peu. En fait, c'était deux accessoires qui complétaient ta console. En fait, tu pouvais les imbriquer dans ta console et tu pouvais lire des CD avec et mettre des cartouches de jeux un peu plus puissantes. Mais le problème, c'est qu'en même temps, à côté, ils développaient la Saturn. Et ce qui n'était pas logique, c'est qu'en fait, ils voulaient maintenir en vie la Mega Drive et en même temps la Saturn. Et c'est
ce qui est pas possible.
C'est ce moment de flottement qui a fait foirer le truc.
Bah, je pense que c'est à cause de ça d'ailleurs que Sega a commencé à perdre beaucoup d'importance à ce moment-là, parce que en général, un constructeur, il sort une console par génération, et le problème c'est que Sega, ils se sont retrouvés avec deux consoles de la génération 32 bits, sachant que la 32X, déjà pas beaucoup de monde l'avait acheté, je crois qu'il y avait pas plus de 500 000 personnes qui l'avaient acheté en tout, et il y avait la Saturn qui était arrivée sur le marché, donc les développeurs, ils se tournaient vers la Saturn qui était un peu le futur du jeu vidéo, et la Mega Drive a été complètement délaissée.
Ouais, mais le problème en fait c'est qu'ils ont, à cause de ça, ils ont fait un flop commercial, vraiment un gros flop, et après ils ont sorti la Dreamcast,
regretté Dreamcast,
qui est la meilleure console de tous les temps.
Ah, ça, je suis tout à fait d'accord.
J'aime beaucoup aussi.
Elle était en avance, mais tellement de points. Il y avait première console en ligne déjà.
Ouais, moi, quand je rejoue, clair. Par exemple, à Shenmue, je vois.
Ah, exact.
Enfin, c'est pas moche, quoi.
Mais ah non, c'est divin, quoi.
Mais c'est autre chose, quoi. La Dreamcast, je sais pas ce qu'elle a, mais pour moi, je sais pas, c'est l'avancement.
C'est peut-être aussi un espèce de mythe aussi, parce que vu que c'est la dernière console de Sega, voilà. Il y a toute une espèce de mythologie
mais
autour.
Mais elle est franchement bien aussi.
Elle est franchement bien aussi, je suis tout à fait d'accord.
Et elle a floppé encore. Pourquoi ? Peut-être parce que la PlayStation a. Enfin, moi je pense que c'est ça. La PlayStation a vraiment bien marché. La PlayStation 1, elle était. Elle a tout écrasé, quoi. Il n'y a pas de. Elle est arrivée et ensuite ils ont annoncé qu'il y avait la PlayStation 2 qui allait sortir et la Dreamcast est sortie juste avant. Et puis les gens ont préféré se dire on va attendre la PlayStation 2, vu que les jeux sont rétro-compatibles, on va pas s'emmerder à acheter une nouvelle console.
C'est ça le problème, c'est que la Dreamcast elle est arrivée entre deux générations de consoles. Et le problème c'est que les gens, même si la Dreamcast était. Franchement, il me semble que la Dreamcast était un chouïa inférieure à la PlayStation 2, mais vraiment pas beaucoup. Hein.
Je crois pas.
Non ? Supérieur peut-être, enfin
je crois que c'était
pas supérieur,
enfin admettons que les deux étaient égales. Le problème c'est que les joueurs ils ont attendu d'avoir la PlayStation 2, ne serait-ce que parce que sur la PS2 il y avait un lecteur DVD qu'il n'y avait pas sur la Dreamcast.
C'est en fait ils avaient un avancement technologique énorme, ils l'ont mal géré au niveau du budget.
Ouais,
mais ça reste
elle coûtait cher peut-être aussi, non? Je sais pas.
La Dreamcast que... je suis pas sûr qu'elle était si chère que ça.
Non,
hein. Parce qu'il me semble que dans le IG Mag que j'ai lu, il parlait de l'édition collector de la Dreamcast qui était sortie pour l'occasion de Resident Evil 3 Nemesis. Et il me semblait pas qu'elle coûtait si cher que ça. Elle devait même coûter moins cher que la PlayStation 2 quand elle est sortie.
Je pense, ouais. Non, mais pour revenir au jeu, c'est vrai que ça s'adresse pas à tout le monde. Sega, c'est pas grand public. Et moi personnellement, c'est ça que j'aime, parce que c'est plus arcade.
Underground.
Ouais, voilà, c'est moi j'aime bien, c'est
ne serait-ce que leur pub, je veux dire, si je me souviens bien, il y a une pub où il y a un gamin qui se prend une tarte dans la tête avec la voix en fond sonore Sega, c'est plus fort que toi. Enfin voilà, cette voix très connue que tout le monde a déjà entendue.
Non mais voilà quoi. Pour moi au niveau des jeux, Sega est au-dessus pour moi.
D'accord. Alors j'ai une petite info que j'aimerais qu'on commande tous les deux. Alors la première info, elle concerne la Mega Drive. Alors le dernier jeu sorti sur Mega Drive est sorti en 2010 et le jeu c'est Pierre Solar and the Great
Solar,
Architect.
Ouais.
Voilà.
En 2010.
En 2010, c'est ouais. 2010 le dernier jeu. Par contre, le dernier jeu de Super Nintendo est sorti en 2000 et c'était Metal Slayer Glorious Director's Cut. Alors j'aimerais qu'on commande ça. Alors est-ce que c'est étonnant que autant d'années après la fin de la production, la Mega Drive, la fin de production de la Mega Drive c'est en 2002. Est-ce que c'est étonnant qu'une console 16 bits à cartouche sorte encore un jeu en 2010 alors on est déjà sur des consoles next-gen comme la Xbox 360 et la PS3?
Personnellement, moi je trouve pas ça étonnant parce que je sais plus, Pierre Solar, je sais plus par quel studio ça a été fait, mais. Ça arrive quoi, c'est des petits développeurs. Moi ce qui me interpelle plus, c'est le fait de comment ont-ils fait pour faire produire des cartouches.
Oui, c'est vrai.
Parce que créer un jeu sur Mega Drive, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas actuellement, ils ont les trucs pour créer des jeux super réalistes.
Oui, il faut juste trouver le support technique pour le mettre dessus. Quoi.
C'est le seul truc qui me choque, c'est comment ils ont fait pour faire des cartouches, quoi.
Surtout que il me semble avoir lu sur Wikipédia, désolé, qu'ils avaient arrêté dans les années 2000, autour de 2005, ils avaient arrêté la réparation de consoles parce qu'ils étaient en rupture de stock de toutes les pièces. Donc, du coup, ils avaient arrêté officiellement la réparation des Mega Drive et des Super Nintendo.
Mais c'est pas étonnant que des gens le recréent. C'est comme la Dreamcast, hein, il y a pas longtemps, il y a un ou deux ans, il y avait un jeu Dreamcast qui est ressorti. Mais bon,
Bah c'est à ça qu'on reconnaît les grandes consoles, hein. C'est quand t'as des jeux qui continuent à sortir dessus alors que la console est censée être morte depuis longtemps.
Mais voilà quoi, c'est comme ça.
Voilà. Alors j'ai une petite info aussi pour ceux qui descendent la Mega Drive en disant qu'elle a beaucoup moins de jeux que la Super Nintendo. Alors je vais totalement être en contradiction avec vous parce que j'ai les chiffres. Alors sur Mega Drive, on a 750 jeux cartouches Mega Drive qui sont sortis, 147 sur la Mega CD et 36 sur la 32X. Bon, Mega CD et 32X, on va les mettre de côté, on va rester sur 750. Sur la Super Nintendo, il y a eu 785 titres disponibles. Franchement, je pense qu'à 25-35 jeux près, enfin ça va quoi. On va quand même pas dire qu'il y a une supériorité de la Super Nintendo juste parce qu'elle a 35 jeux de plus quoi. Surtout qu'il faut voir les saloperies qui pondaient à côté. Hein.
Ouais, bah je pense que les petits éditeurs pondaient plus facilement leurs jeux, même les jeux sans licence. Tu sais, ceux qui n'ont pas eu l'accord Sega.
Ouais.
Je pense que Sega, Nintendo. Je pense
qu'il fallait un accord pour publier des cartouches.
Je pense que il y en avait plus sur Super Nintendo que sur Mega Drive. Mais je suis pas parce que vu que les gars voyaient que c'était une console qui était plus vendue.
Oui, il y a plus d'éditeurs qui se tournaient peut-être vers Super
voilà,
Nintendo.
Voilà, c'est plus
quoi.
Grand public, c'est plus facile de se faire de l'argent. Mais les fameuses cartouches bleu clair.
Oui, voilà, genre Bible Games ouais. ou les dernières cartouches Color Dream, testées par le joueur du grenier.
Ouais.
Bah, c'est des cartouches non officielles et puis bah on voit bien ce que ça donne quoi.
Ah ouais, on voit pourquoi c'est pas officiel.
C'est... Mais il y avait un petit point aussi que je voulais dont je voulais qu'on parle, c'était la censure chez Nintendo parce que c'est bien connu, enfin c'est bien connu normalement. Quand Mortal Kombat est sorti sur la version Super NES. Mortal Kombat 3, si je me trompe pas.
3, ouais.
Il était censuré, notamment parce que, bah, à cause des fatalities et des brutalities, on les connaît. Alors que sur Mega Drive, ces actions de fin, disons, ces achèvements de personnages adverses n'étaient pas censurés. Du coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça place la console Mega Drive dans une optique beaucoup plus mature.
Oui, voilà,
que la
mais
console
c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour les gamers, c'est pas pour les enfants. Et on voit que Nintendo a suivi cette évolution. Maintenant, avec la Wii,
exactement,
U,
oui.
Ça reste dans. Ils ont pas bougé Nintendo. Ils sont restés.
En fait, la Super NES était vraiment l'apogée de Nintendo. Et le problème, c'est qu'après, ils ont fait que se maintenir, voire être sur une pente descendante.
Moi, je trouve qu'ils ont, ils deviennent encore plus casual, joueur occasionnel que qu'ils l'étaient avant.
Bah ouais, mais après, comme on dit, on peut pas tout avoir. Hein. Eux, ils se sont focalisés sur les joueurs casual, alors que Sega peut-être a préféré avoir des joueurs plus avoir des joueurs plus mûrs. Il faut dire aussi peut-être que les joueurs qui ont commencé sur, qui ont joué plutôt à la Mega Drive, c'est des joueurs qui ont commencé aussi peut-être sur NES, et c'est eux qui ont grandi et qui ont voulu une expérience de jeu plus mature, qui allait avec leur âge.
Oui.
Enfin voilà.
Je suis d'accord.
C'est une phrase assez.
Oui, je comprends.
Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Alors, c'est indiscutable.
Il n'y a pas de
console qui bouffe l'autre, quoi.
Ouais, voilà, c'est.
Après, il y a des trucs qui sont évidents. Alors, la Super NES, elle affiche un peu plus beau. Elle sonne plus jolie. Mais la Mega Drive, elle anime plus vite. On le voit grâce plutôt à Sonic. Sonic, vous arrivez à faire bugger le scrolling et à faire sortir Sonic de l'écran tellement vous allez vite. Donc c'est quand même une.
Enfin, oui, c'est un gros glitch quand même.
Oh, c'est un gros glitch. Je veux dire, t'as des moments. Quand j'ai joué avec Manu, Manu, il trace. T'arrives à l'écran de fin avant que le scrolling arrive sur le panneau.
Oui,
quoi.
Ouais. Non, quand tu fais un bon bien.
Quand tu traces bien, le scrolling, il a du mal à suivre. Hein, comme quoi. C'est pas une console si pourrie quoi.
Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut ça.
Oh, moi je pense que c'est plutôt une qualité puisque c'est pas comme si le jeu buguait au final, parce que quand le scrolling revient, le jeu il est pas bugué, il continue à être jouable.
Non mais oui, en fait pour clore un peu le débat, oui, il y a pas de supériorité, d'infériorité, c'est en fait tu joues pour les jeux qu'il y a dessus.
Oui, voilà.
Et c'est pas le support qui fait la qualité du jeu. Enfin généralement c'est la même génération, donc il y a des différences, mais c'est pas monstrueux quoi.
Non les différences, c'est la même génération de consoles. C'est vrai que la seule grosse différence, et c'est le premier argument que j'ai avancé,
c'est la musique,
c'est la différence sonore. C'est incontestable que ne serait-ce que d'avoir un vrai compositeur derrière et deux processeurs musicaux, la Super NES sonne beaucoup mieux. Mais après, la Mega Drive et ses sons électroniques, elle a quand même un charme assez incontestable. Hein.
Moi, je trouve. Bah oui, bah en gros, ce que vous pouvez retenir vraiment, de ce débat, c'est que la Mega Drive, en fait, est mieux. C'est tout. C'est,
mais bien
c'est
sûr, que ça bien dire. Sûr. Non, les deux ont leur qualité, on peut pas dire telle et la
meilleure. Ouais. Mais bon, la Mega Drive reste supérieure.
Je pense que le seul gros problème...
Moi qui allais dire que vous avez enfin réussi à vous mettre d'accord.
Non, mais jamais.
Mais je pense qu'on se mettra d'accord là-dessus. Le problème, c'est que à cause de cette rivalité qui a un peu coulé Sega, on a perdu un constructeur de consoles.
Mais même les jeux qu'ils font maintenant, enfin...
Au-delà du jeu, je pense que si on n'avait pas perdu le constructeur, on n'aurait pas perdu les jeux. Et je pense que ce naufrage dont Sega a été la victime, je pense que ça pénalise le joueur. Parce qu'on perd une expérience vraiment incroyable avec Sega.
En fait, il n'y a pas d'intérêt à trouver qu'est-ce qui est mieux ou pas bien que l'autre, parce qu'on perdra cette rivalité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on a pu maintenant, tous les jeux sur toutes les consoles. Et en même temps, il y a plus de... Enfin, il y a quelques jeux à console...
C'est comme comparer Alan Wake et Uncharted, qui sont tous les deux des exclus de leurs consoles respectives.
Voilà, et voilà, c'est tout.
Voilà, donc c'était notre petit sujet sur la rivalité ancestrale entre Sega et Nintendo. Alors, on va se balancer un petit morceau de Johnny Cash qui s'appelle I've Been Everywhere, qui était dans un épisode des Simpsons, si vous avez vu la série. Voilà.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, it's bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistaw, Chattanooga, Chaston, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Off travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere.
Alors, je vais vous faire mon sujet sur Dark Souls. Alors, Dark Souls, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? D'où ça vient?
Un jeu très punitif, voilà ce que c'est.
Donc, je vais replacer un peu mon vécu par rapport à ce jeu. Voilà, c'est le mot vécu que je cherche.
Vécu, c'est très dur à dire comme mot.
Vécu, oui, quatre lettres, c'est... Ouh. Alors, l'histoire, c'est qu'un jour, avec un ami, on va dans un magasin, dans notre magasin de jeux vidéo préféré. et on voit un jeu qui s'appelle Dark Souls. Et Dark Souls, ça me disait quelque chose, parce qu'on avait entendu ça à un débat au Stunfest. Dark Souls, en fait, c'est un jeu très très dur, mais enfin très dur. Il est pas dur dans le sens où
quand tu sais y jouer, il est pas dur. Mais franchement, c'est les premières heures de prise en main où c'est punitif au possible.
C'est
quoi.
Monstrueux. Alors en gros, on achète le jeu, le vendeur nous dit ah Dark Souls, c'est bien, mais vous allez nous le ramener, c'est obligé. C'est obligé parce que ce jeu passe de main en main très rapidement et au bout de deux jours, il nous revient tout le temps.
Sachant que, si je me trompe pas, c'était l'édition quand même collector qu'il avait acheté.
Oui, c'est l'édition collector.
Alors en général, tu le gardes quand même, mais bon.
Mais alors ce jeu, c'est un boomerang et bon, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, on recadre l'histoire un peu du jeu. Donc, c'est la suite d'un jeu qui s'appelait Demon's Souls.
Qui était une exclu PS3, si je me trompe pas.
C'est pas vraiment la suite.
C'est une espèce de spin-off, on va dire.
Bah ouais, je dirais pas spin-off, parce que spin-off, ça veut dire que c'est un truc à part dans l'histoire.
Bon, tu m'ennuies beaucoup, là. Ouais. On va dire que c'est, tu...
c'est mon sujet,
un jeu en liaison avec Demon's Souls.
Voilà, ça se passe... On va
qui
dire
reprend
dans le même
un univers, voilà.
Voilà, qui reprend un univers. Donc, l'histoire du jeu, vous êtes un mort-vivant. Donc voilà, c'est tout simple. Et vous êtes dans un refuge.
Donc pour une fois, vous êtes un mort-vivant et vous n'êtes pas le méchant.
Non, vous êtes, c'est bizarre, c'est un gentil mort-vivant. Et donc, le but tout de suite, dès le début du jeu, c'est de s'échapper du refuge. Et après, vous apprenez que vous êtes l'élu. Vous êtes le mort-vivant élu. Vous devez raviver la flamme, ramener l'âge des flammes dans le monde et tout. C'est assez bizarre parce qu'on ne comprend pas trop l'histoire dans le jeu. C'est assez. Il n'y a que les PNJ qui vous en parlent, il n'y a pas beaucoup de PNJ.
Ah non, les PNJ se comptent sur les doigts d'une main.
Il doit y avoir, enfin, 9 quoi, quasi 19. Et donc en fait, dans la cinématique du début, vous apprenez que c'était l'âge des dragons en fait, il y avait des dragons dans le monde.
Comme dans beaucoup d'Heroic Fantasy.
Oui, les dragons sont toujours là avant et puis ils veulent asservir les humains, mais les humains gagnent. Et donc, j'avais écrit que il régnait sur le monde et installait un climat de terreur, c'était les ténèbres. Et donc, Gwen, le seigneur de la lumière, oui, Gwen, c'est vrai.
Gwen.
Gwen, oui, c'est Gwen. Le boss de fin s'appelle Gwen.
Gwen. Mais non, c'est pas
les
un vrai
Bretons
nom.
Les Bretons sont
les... Gwen. Ah, super.
Les Bretons.
En fait, c'est un truc historique plutôt, Dark Souls. Ça raconte ce qui se passait en Bretagne.
Les Corrigans, tout ça.
Exactement.
Et donc, il était accompagné de Nito, le premier des morts, donc le premier mort du monde, il s'appelle Nito. La sorcière Izalith et les filles du chaos. Et Seth l'écorché, qui est un dragon en fait. Et ils décimèrent tous les dragons du monde. Et ils ont commencé l'âge du feu comme ça. Donc voilà. Et donc vous êtes le monde du feu s'essouffle peu à peu. Et vous êtes là pour remplacer Gwen en fait. Il faut que vous alliez auxir Gwen pour ramener le monde comme il était avant, le monde du feu, le monde de la joie, de la bonne humeur.
Mais oui, bien sûr.
Et donc pour revenir au système de jeu, ce qui est horrible, c'est que c'est un jeu punitif, en fait. C'est du try and die.
Voilà.
Try and die. Tu essaies, tu meurs, tu recommences, tu essaies, tu meurs, tu recommences. Donc, ça fait que dès le début du jeu, le premier ennemi, c'est un boss. Et vous ne pouvez pas le tuer. Vous pouvez le tuer, mais il faut être fort.
Ouais, donc, et puis surtout que en fait, ça vous décourage tout de suite parce que vous arrivez, le premier ennemi du jeu, c'est un boss qui fait, je sais pas, il doit faire 10 mètres de haut et le machin, pardon, il prend la moitié de la salle où vous êtes, ça décourage quand t'es là. Non, pourquoi tout de suite? Qu'est-ce que je fais pour ça?
Donc ensuite, il y a le système de parade. Enfin, en fait, on va parler du jeu d'une façon, c'est un monde Heroic Fantasy, mais de manière réaliste. C'est-à-dire que en fait, vous allez vous prendre deux coups d'épée, vous allez mourir. Et c'est normal, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça dans la vraie vie. Et
ça,
encore un coup d'épée. Enfin, si tu résistes à deux coups d'épée dans la vraie vie bien placé, c'est que t'es quand même un warrior.
C'est censé être un mort-vivant normalement.
Ouais, mais bah il y a un système. Enfin, j'en parle vite fait, mais il y a un système où tu peux redevenir humain dans le jeu sur les ennemis que tu tues. Ils drop des humanités, tu peux les sacrifier à tes feux de camp et ça, tu peux redevenir humain. Sachant que quand tu redeviens humain, si tu te fais tuer, tu réapparais au feu de camp, mais tu n'es plus humain.
Je vais y revenir tout à l'heure de ce système d'humanité. Donc en fait, vous êtes ouais, une carcasse, ils appellent ça une carcasse.
Une carcasse, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc tout au long de votre périple, en fait, c'est un circuit, vous devez sonner deux cloches, ensuite aller tuer des boss, après tuer les serviteurs, enfin tout ça, quoi. C'est très simple, l'histoire est très très basique, très très simple, mais le jeu ne base pas son intérêt là-dessus. Son intérêt, c'est la difficulté. C'est-à-dire que même le premier boss au final est facile à battre, Mais le... Je sais pas, même les premiers ennemis basiques, des, vous allez combattre des petits morts-vivants, mais trop simple, mais si vous, vous pouvez vous faire latter, mais je vous dis pas, mais comme une brêle.
En fait, faut juste connaître la technique, parce que les petits morts-vivants, au tout début, si vous voulez, en, ils sont plus ou moins aveugles, ils sont en général tournés vers un mur. Donc vous arrivez, vous leur filez un coup, et normalement, ça va. Sauf que, à partir du moment où vous leur filez un coup, ils savent que vous êtes là, et ils ont une espèce d'attaque, je sais pas, ils enchaînent des coups en avant, vous pouvez vous faire fumer par le premier ennemi du jeu, quoi.
C'est, oui, c'est contre toute logique bah, actuelle des de développeurs.
Oui, voilà.
Actuellement, bah, t'arrives pas à une mission, bah, on passe à la suivante et tu la referas après. Quoi.
Oui, bah non, là non.
Alors que là, non, tu perds, bah, tu continues. T'as intérêt de gagner, mon gars, c'est comme ça, c'est le jeu.
Il va falloir que tu la gagnes, ta victoire, ouais. C'est pas gratuit. Hein.
Et donc, pour revenir un peu aux particularités du jeu, oui, il y a le système d'humanité, comme tu parlais, c'est que vous avez deux états, l'état carcasse et l'état humain. Et quand vous êtes humain, en fait, vous pouvez quand vous êtes en ligne, jouer en coopération avec d'autres personnes, mais aussi vous faire attaquer.
Ouais, mais ça, c'est un truc d'enfoiré, je trouve ça.
Et vous pouvez aussi vous faire attaquer.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes tranquillement en train de marcher, donc le jeu est déjà dur en lui-même. Mais là, il peut y avoir un gars d'une autre partie qui fait du PVP, qui arrive dans votre monde et qui vous dit « Bah, toi, mon gars, tu vas morfler. » Donc, en gros, il y a les ennemis sur vous, plus lui est avec les ennemis. Vos ennemis ne l'attaquent pas, lui. Ils sont avec lui. Et c'est très vicieux parce que les...
Non, mais je trouve ça trop fort. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais dans un petit couloir, avant d'aller combattre les gargouilles dans le jeu, j'étais dans un petit couloir où tu sais, t'as tous les mendiants qui viennent vers toi, où t'en as une quinzaine, tu les tues, et là, je vois en bas de l'écran, nanana vous a envahi. Et là, tu vois un mec avec une épée de 5 mètres dans une espèce de halo rouge flamboyante. Et là, oh punaise. Alors moi, je me suis mis à courir. Bon, le mec, il m'a défoncé en 2 secondes. Quoi.
Ouais, non, mais c'est monstrueux. Et donc, ce jeu arrive dans une bonne période. Que, moi, je le trouve génial parce qu'on perd la difficulté dans les jeux vidéo. Et c'est un jeu qui arrive vraiment au bon moment. Quoi, parce
ouais, c'est clair.
C'est ça l'intérêt. Mais... Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer comment. Parce que je sais que ça rebute pas mal de monde. La difficulté comme ça, trop de doses, ça plaît pas. Mais une
bah,
fois.
Moi, au début, je dois t'admettre que quand je jouais chez toi, il y a un moment, j'en avais plein le dos. Quoi, parce que t'es là, tu meurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des boss dans le jeu, effectivement. Mais chaque ennemi, même si vous êtes upgradé au maximum, vous avez une armure de fou. Suffit que vous ratiez un coup avec un ennemi, ça peut vous être fatal, quoi. L'ennemi, il arrive par derrière, il vous backstab, en gros, il vous embroche par derrière, si vous voulez, et vous êtes cané, quoi.
C'est un peu ça, il vous embroche par derrière.
Le moindre ennemi du jeu, embroché, pas de double sens, oui, s'il te plaît. Le moindre ennemi dans le jeu, si vous vous ratez, vous pouvez vous faire fumer, quoi, même si vous êtes super puissant.
Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que il est pas pardonnable, que c'est pas non, c'est ça, désolé, ouais. Désolé, je t'ai eu, mais bon, là, je te laisse une chance. C'est non, c'est tu as raté, voilà, tu vas mourir. C'est comme, je prends l'exemple en fait du boss de fin, je vais pas vous spoiler, mais en fait je l'ai combattu hier soir parce que j'avais déjà fini le jeu une fois et j'essayais de le refinir une deuxième fois. Et le boss de fin, en fait il faut lui faire des parades, c'est des mouvements de bouclier. En fait il vous donne un coup d'épée et en fait si vous le parez au bon moment, vous pouvez lui mettre une attaque un peu fatale, vous pouvez lui planter l'épée dans le bide par exemple, ou ce qui fait beaucoup de dégâts. Mais le boss de fin a une vitesse de frappe qui est tellement monstrueuse qu'il faut être clairvoyant pour...
Si tu rates une parade, tu meurs, quoi.
Oui, voilà, voilà, t'as raté ta parade, bah, c'est fini. Il te fait tomber par terre, il te chope à la relevée. C'est pire qu'un Street Fighter.
Mais il y a aussi un truc qui est un peu abusé, c'est que, enfin, abusé dans le bon sens, qui fait que le jeu est intéressant, c'est qu'en fait, à peu près tout ce que votre personnage peut faire, les ennemis peuvent le faire. C'est-à-dire qu'eux aussi peuvent vous parer et eux aussi peuvent récupérer de la vie avec les fioles d'estus, qui sont des fioles qui vous redonnent de la vie dans le jeu. Donc, c'est. Si vous tapez un ennemi, vous vous dites, oh, il reste un coup, je vais m'éloigner, je vais reprendre de la vie, je reviens. Ben, lui aussi, entre-temps, il a pu récupérer de la vie et il vous fait un contre et hop, vous l'avez dans les fesses.
Oui, voilà, mais ça marche par système de. En fait, le jeu est créé pour ça, pour la mort, pour la rapidité. C'est que des systèmes de. En fait, c'est les checkpoints en fait, du jeu sont des feux et c'est vraiment basé sur. Tu vas d'un checkpoint à l'autre et tu sauvegardes et t'es safe, t'es en sécurité au feu, voilà quoi. Et encore, des fois, je me fais frapper sur un feu. Ça m'est arrivé quelques fois.
Ah oui, entre le moment où tu t'assois au feu et le moment où les ennemis retournent à leur place d'origine, c'est ce qui se passe quand on s'assoit à un feu. Si vous avez trop d'ennemis, vous vous asseyez au feu, ils reprendront leur place d'origine sans savoir que vous étiez là. Bah, il y a des moments, le jeu se met à bugger, vous vous asseyez au feu, mais l'ennemi continue à vous maraver et le temps qu'il disparaisse, vous avez quand même perdu de la vie. C'est assez bizarre.
Le système de fioles d'estus pour se soigner, vous en avez 5. C'est tout, 5. Voilà. Tu iras de là à là en 5 fioles d'estus. Tu n'auras pas de moyen de te soigner. À part si tu es clair ou une classe où tu peux te soigner, tu ne pourras pas te soigner plus.
Ouais.
Et pareil, au niveau des sorts, vous avez par exemple 10 lances de foudre, ça ne sera pas une de plus. Vous ne pouvez pas en gagner avec un objet. Et voilà, quoi. Donc c'est un jeu qui n'est pas permissif. Quoi.
C'est ça. Mais par contre, c'est un jeu qu'il faut vraiment essayer. Quoi. Si vous voulez vraiment du challenge, vous le prenez, il n'y a aucun problème là-dessus. Quoi.
J'y joue non-stop depuis 2 semaines. Quoi, et
je crois que tu me le rends d'ailleurs.
Oui, moi je te le rendrai. Et je suis coincé dessus. Donc voilà, c'était mon petit sujet sur Dark Souls, un jeu vraiment à essayer, qui est vraiment génial.
Voilà, c'était le sujet sur Dark Souls. Alors maintenant, on va lancer un morceau des Leningrad, un groupe russe, qui était sur la bande originale de GTA 4, et le morceau s'appelle Miyazavuchnour, j'espère que je prononce bien. C'était Miyazavuchnour sur la bande originale de GTA 4, le groupe Leningrad. Alors, on va partir sur un petit débat et nous aurons comme intervenant le cher Florian qui est en régie.
Comment qui intervient depuis le début de l'émission.
Oui, mais bon, je te présente que maintenant parce que je fais ce que je veux, je suis l'animateur après tout. Alors, donc le petit débat d'aujourd'hui sera sur la dématérialisation. Alors, est-ce qu'on peut peut-être définir ce qu'est la dématérialisation avant de commencer?
Bah, la dématérialisation, c'est simple, en fait, c'est ne plus avoir de données... Enfin, ça, c'est plutôt le cloud gaming. La dématérialisation, c'est plutôt ne plus avoir de CD, en fait, vous avez une boîte de jeux...
Plus de support physique, en fait.
Ouais, voilà, tout simplement plus de support physique, en fait.
C'est simple.
Tout simple, oui.
Voilà.
En gros, vous n'achetez plus une boîte, vous achetez un truc sur le net, et puis vous l'avez, quoi. C'est tout.
Voilà, donc ça, c'est la dématérialisation. Alors après, je vais faire très rapidement, très succinct, un tout petit historique de la dématérialisation. Alors ça a commencé, je le disais ça tout à l'heure, avec la Super NES.
Super NES.
Avec le... Attendez, j'avais noté le nom, mais forcément, je ne m'en souviens plus. Avec le Stellaview. Alors Stellaview, c'était un espèce de modem qui s'emboîtait sous la Super NES. Et vous aviez, je crois que c'était un jour par semaine, vous pouviez télécharger des jeux, donc dématérialisés, sur votre Super NES. Alors après, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque. Hein, c'est le genre de truc qu'on ne retrouve pas facilement. Mais donc,
c'était
ça,
pas par la ligne téléphonique
Non, d'après ce que j'ai compris, c'était branché à une parabole en fait. Mais je ne sais pas si la parabole, c'était genre votre parabole télé, ou si c'était une parabole fournie avec le machin. Je ne précisais pas.
C'est bizarre.
C'était pas précisé. Donc ça, c'est vraiment les prémices. Alors après, on a eu d'autres petits essais avec Atari notamment qui a essayé de faire quelques trucs, mais bon, c'était pas très 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 probant. Et on arrive donc à l'apogée de la dématérialisation. On arrive maintenant donc 2010-2012 avec les consoles next-gen qui ont des connexions internet et des marchés virtuels de jeux vidéo qui vous permettent d'acheter des jeux dématérialisés. Alors, juste petite précision, je précise next-gen parce qu'il faut savoir que dans la théorie, la PlayStation 2 et la Dreamcast avaient aussi une connexion internet. Pour la Dreamcast, c'était plus vrai que pour la PS2, parce qu'il y avait un modem intégré, mais qui ne fonctionnait pas en Occident.
Ouais, il fallait un adaptateur téléphonique, voilà. Parce qu'ils n'étaient pas basés sur le même réseau.
Voilà, donc je précise next-gen pour bien préciser que c'est que pour les consoles, donc Wii, pour le WiiWare, PlayStation pour le PlayStation Network qui a été renommé, je ne sais plus comment.
PSN, non,
c'est pas... Non, il y a un nouveau nom, mais je ne sais plus c'est quoi.
Et personne ne l'utilise de toute façon.
Oui, voilà, tout le monde dit PSN de toute façon, et le Xbox Live. Alors voilà, donc le jeu dématérialisé arrive avec les consoles next-gen.
Donc oui, moi personnellement, la dématérialisation, je m'en suis servi sur ma Wii, parce que... Bon,
il est intéressant sur Wii quand même.
Sur Wii c'est sympa, mais c'est cher quoi. C'est, ouais, c'est attends, pour les jeux, mais qu'il y a dessus, genre tu chopes des Super Street à je sais plus combien, mais à 10 balles quoi.
Bah il y a un des problèmes qui était avancé, qui est avancé par la dématérialisation, c'est que les éditeurs, beaucoup aujourd'hui, les jeux qui sortent en dématérialisé sortent au même prix que les jeux en boîte. Alors qu'au final, en boîte, vous avez donc pas de boîte, pas de notice, pas de CD. Donc c'est une réduction des coûts pour le développeur et l'éditeur, puisqu'ils n'ont plus à payer tout ça. Bon, ils argumentent ça en disant que c'est pour faire plus d'économies, mais eux, de leur côté, ils payent plus ça. Et pourtant, à côté, le joueur paye son jeu au même prix. Donc ça, c'est déjà une grosse problématique, je pense, sur la dématérialisation.
Bah oui, surtout que le problème, c'est que c'est... comment dirais-je je comprends qu'il y a des gens qui sont pas collectionneurs, qui n'ont pas de comment, qui n'aiment pas avoir des boîtes, des trucs comme ça. Mais c'est comme, il y a quand même une, je sais pas, c'est comme perdre quelque chose quoi.
Bah t'as l'impression que
c'est embêtant quoi. Enfin, c'est pas que ça nous dérange, mais enfin, il y a une petite gêne quoi.
Clairement, moi quand j'achète un jeu dématérialisé, ce que j'ai fait une fois, j'ai l'impression que mon jeu m'appartient pas. Parce que honnêtement, d'avoir un support physique, ton jeu, tu peux le tenir dans tes mains, il est à toi. Alors que de savoir qu'il est là sur ta console, tu te dis, mince, admettons ma console plante. C'est comme Florian par exemple. Florian, on sait qu'il a une DS et qu'il a téléchargé des jeux dessus. Ta DS, elle plante les jeux.
Ouais, c'était, mais bon, je les avais gratuitement, mais ouais, c'est vrai, du coup, ouais, je les ai plus.
Bah voilà, si ta DS, elle plante, les jeux, ils sont baisés. Tu peux pas les récupérer.
J'ai vu Pierre aussi dessus, là, vous parliez des jeux qu'on achetait et qui étaient au même prix en dématérialisé. Ouais. Sur DS, c'est pire, ils sont plus chers.
Ils sont plus chers.
Je crois que c'était. Comment Super Mario, je sais plus comment il s'appelle, c'est le 2 avec les pièces.
Golden Coins.
Ou un truc du genre. Et qui coûtait genre 40-45€ en dématérialisé que tu pouvais télécharger sur ta 3DS, alors qu'en boîte il est à 35€.
Bah surtout que moi j'ai acheté la cartouche Game Boy, je l'ai payé 2€ dans un cash truc donc.
Non, là je te parle du jeu 3DS qui est sorti il y a quelques semaines.
Ah d'accord, ok. Ah je pensais que tu parlais de la version.
New Super Mario Bros.
En tout. Ouais, c'est un truc.
Ah oui, d'accord, celui-là, ok. Ah, je confondais avec celui qui était sorti sur Game Boy, autant pour moi.
Et donc, en ce moment-là, il commence à se mettre au dématérialisé de jeux 3DS.
D'accord.
C'est ça qui fait mal parce qu'il y a encore une plus grosse évolution que la dématérialisation. Enfin, ils avancent là-dedans, mais là, faut se dire que la dématérialisation, c'est le début d'un truc. Il y a le cloud gaming qui va arriver dans pas longtemps, et le cloud gaming, c'est affreux. C'est en gros, vous jouez, le jeu n'est pas chez vous. Vous jouez sur votre télé, un jeu qui se trouve sur des réseaux. Par exemple, au Japon, il va y avoir des grandes bases de données. Votre sauvegarde sera là-bas, votre jeu sera là-bas. Vous avez juste la manette et la télé. Il y en a qui trouvent ça intéressant. Moi, je me dis que je joue à un jeu, le réseau plante ou le réseau se fait pirater. Moi, ça m'emmerde.
Bah, surtout qu'au final, où sont les données ? Où elles sont ? Au final, on ne sait même pas. Mmh. Parce que pour la dématérialisation, on sait que le jeu, il est sur votre console. Mais pour le cloud gaming, le jeu, il est stocké quelque part, mais on ne sait pas exactement où.
Mais ça peut être aussi très intéressant. Au niveau qu'on n'aura plus besoin d'acheter de super grosses bécanes.
Voilà, il y a ce...
C'est l'argument qui était avancé, c'est que, si je peux me permettre de l'expliquer, en gros, il disait que s'il n'y a plus de jeux avec de support physique, notamment pour les PCistes, ils n'auront pas besoin de tous les deux ans remettre leur. Enfin, tous les deux ans, mais en général, c'est tous les six mois, de remettre leur ordinateur à niveau pour pouvoir jouer aux nouveaux jeux parce qu'ils seront moins gourmands au final.
Ouais, c'est le problème. Voilà. Mais bon, ça, pour moi, ça reste un mauvais truc. C'est comme enlever quelque chose petit à petit à quelqu'un. Au début, tu lui enlèves son sweat, après tu lui enlèves son t-shirt, tu lui enlèves ses pompes, et bah voilà. Au final, plus ça va aller, plus il va se retrouver à poil, le bonhomme. Quoi.
Bah voilà. Mais j'avais une petite, si je peux la placer, une petite citation que je trouvais très intéressante de Jim Reilly, qui est éditeur sur le site IGN. Alors, j'ouvre les guillemets, c'est ce qu'il a dit. Hein. De toute façon, j'estime que les joueurs ne devraient pas accepter d'acheter des jeux sans manuel en papier. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est moi qui ferme la parenthèse, les sans manuel de jeu. Ah voilà. Ouais. Alors que nous sommes déjà obligés d'acheter des jeux 10$ plus chers qu'il y a moins de 10 ans. On attend déjà de nous un paiement supplémentaire quelques semaines après la sortie du jeu pour un contenu téléchargeable qui aurait déjà dû être disponible sur le disque. Et en retour, on doit se contenter de jeux remplis de bugs et de pépins techniques au lancement. D'ailleurs, précisons que ces bugs, ils sont pas toujours corrigés, à part si vous avez une connexion internet, et donc un abonnement, et donc qu'il faut payer.
Bah, je reviens au sujet d'avant, Dark Souls, pareil. Voilà. Il y avait un bug monstrueux, où au bout de, vous commencez le jeu, et si vous récupérez un certain item, vous pouvez devenir niveau maximum direct, dès le début du jeu. Et
voilà.
C'est pas logique que ça arrive, ça. Enfin, c'est complètement naze, quoi. Mais c'est parce qu'après, il y a un problème au niveau des éditeurs et des producteurs, parce qu'il y a une deadline trop serrée. Les petits développeurs sont obligés de bourrer le travail comme des bourrins. Et...
Ouais, mes petits développeurs, je sais que L.A. Noire, quand il est sorti, il était buggé aussi. Hein. Pour anecdote, j'avais écouté le podcast de Gamerside, et il disait qu'il y avait un des mecs qui avait acheté L.A. Noire, et il n'avait pas de connexion internet à ce moment-là, le jeu était buggé. Mmh. La cinématique se lançait pas, il avait un écran noir, la voiture roulait dans la rue, mais il n'y avait pas de texture. Enfin voilà quoi.
Donc apparemment, ça permettrait la dématérialisation permettrait de plus avoir ces bugs directement.
Je pense que les bugs, ils devraient pas être là à partir du moment où tu achètes le jeu.
Moi, je trouve ça utopiste. Mais après, je trouve que tu perds vraiment le charme du jeu. T'achètes un jeu, t'as la boîte, t'as l'objet. T'es content. Mmh. Mais de toute façon, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils vous vendent un temps de jeu. Vous achetez n'importe quel jeu, votre CD ne sera pas un CD. Les données partent au bout d'un moment.
Oui, toute façon. Bah oui, c'est la dégradation du support.
Du support. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a ce truc là où le support serait pas dégradé, quoi. Donc, en gros, vous pouvez y jouer à l'infini, logiquement.
Ouais.
Mais le problème, c'est que, ouais, voilà. Est-ce qu'on sera pas obligé de payer un abonnement pour y être sur ces fameux,
oui, voilà.
Sur ces fameux serveurs? Est-ce qu'on sera pas, ça sent le coup foireux, monstrueux.
Bah, sachant que le jeu en boîte, du coup, ça fait faire des économies sur un autre plan, c'est que, le jeu dématérialisé, il faut le stocker, donc il faut payer des serveurs. Alors que le jeu en boîte, t'as pas besoin de stocker des serveurs. Donc en fait, chaque argument, est valable en fait, parce que d'un côté on nous dit qu'il faut faire des économies de papier, des économies de pétrole à cause de l'acheminement des jeux déjà par les camions, ce genre de choses, mais aussi parce que les boîtes en plastique elles sont faites avec du pétrole, on va pas le cacher. Mais de l'autre côté on a les économies de serveurs, parce que les serveurs ça coûte très cher aussi. Donc en fait il y a des points positifs des deux côtés, quoi.
Mais bon, pour moi, ça resterait une mauvaise chose, la dématérialisation. Enfin, c'est...
Pour moi aussi.
Voilà.
Donc après, juste pour conclure, on peut dire qu'on va vous laisser réfléchir sur un truc, c'est que les jeux dématérialisés, ça tue le marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des magasins de jeux vidéo qui ne vivent que du marché de l'occasion. Donc si vous achetez vos jeux dématérialisés, vous ne pouvez pas les revendre. Et donc, forcément, vous tuez les petits commerçants qui vendent des jeux d'occasion dans leur magasin. Donc voilà, on va peut-être vous laisser réfléchir un petit peu là-dessus et on va lancer le prochain morceau. Alan, qu'est-ce que c'est ?
C'est The Menace de Mongrel.
Wisdom. Okay, so now this warmonger claims to be a Christian. That's false. See it if you only look. Money's religion, and TV's the holy book. If he's Christian, then Christians are getting a bit crazier. He should know Iraq was once called Mesopotamia. They tell a lot of lies that are hard to believe in. Cause Mesopotamia was the Garden of Eden. Systematically sadistic, sicker than sickle cell. Christian couldn't turn the Garden of Eden to live in hell. Kill women and children, claiming they're not civilians. Get on the TV and start brainwashing millions. Using innocent lives that died in them buildings, and soldiers to fight, but doesn't want that life for his children. Hypocrite, a killer with a covenant of sin, not a governor of government, just a puppet on the string. Terrorism, take a look in a good mirror. Beat around the bush, I'm a bushwhacking bush killer. Don't believe it, even though some sheep do, they wouldn't hate you if you didn't give them a reason to. Say justice, but that's just a lie. Religion's not the reason, just the way they justify. You're a terrorist, giving birth to another terrorist. The fact is fundamentally that you're the fundamentalist.
Fundamentally, you're a fundamentalist. Kinda got a wound in you, the real terrorist. You're a menace, you're a credit to none. Electoral eclipse of your moral sun.
ones for Kosovo, Iraq, Palestine, Chechnya, all those that pass on 9/11 in America, Afghanistan, Kashmir, Bosnia and Darfur. It's in our nature as the human race to start war. Congo, Somalia, Eritrea, Rwanda, Lebanon, Liberia, Serbia and Uganda. Round the world, too many children deaded in vain. I won't carry on, cause there's too many to name.
Fundamentally, you're a fundamentalist. Kinda got a wound in you, the real terrorist. You're a menace, you're a credit to none. Electoral eclipse of your moral soul. Four lucky young guns done London. Electoral eclipse of your moral soul.
Or Bazaar, or from Armanor or Canada, from Aberdeen or Africa, Camden or Addis Ababa. I do this for the mothers and daughters without running water, and the brothers tortured in lawless wars that the country slaughtered. You say justice, but that's just a lie. Religion's not the reason, just the way you justified. You're a terrorist, giving birth to another terrorist. The fact is fundamentally that you're the fundamentalist.
Fundamentally, you're a fundamentalist. Kinda got a wound in you, the real terrorist. You're a menace, you're a credit to none. Electoral eclipse of your moral son.
Et voilà, c'était The Menace, un morceau de Mongrel. Alors voilà, c'était la troisième émission d'About Nerd. Alors, à côté de moi, il y a Alan.
C'est moi.
C'est Alan. Et en régie, nous avons Florian.
Florian.
Et moi-même.
Florian qui dit le Pokémon Florian.
Et moi-même, Jean-Pierre. Alors, nous avons été très très heureux de vous accueillir pour cette troisième émission. On vous dit à la semaine prochaine et on vous fait des gros bisous à tous. N'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook, à bout de nerd sur Facebook. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Allez, ciao ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Et non, c'était une blague, on revient pour la minute en rab. Et oui,
comment
cette semaine.
C'est trop drôle.
Hey, je suis trop drôle, mon gars. Non, cette semaine, on a le droit à une petite minute en rab. Alors, cette semaine, on va parler du pixel art. Alors, le pixel art, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que quoi donc?
Qu'est-ce qu'il s'agit?
Alors, le pixel art, généralement, c'est de faire des peintures du petit machin perle à repasser, ça voilà. Marche aussi. De la musique, je sais pas trop si la musique ça fait.
Mais musique en pixel art?
Ouais, non, je sais pas. Je pars dans n'importe quoi. Non, en fait, le pixel art, c'est tout ce qui est art visuel, mais couplé aux jeux vidéo, généralement oldies en fait, des vieux
voilà,
jeux vidéo.
Plus, bah, en gros, vous voyez un jeu 16 bits ou un jeu 8 bits, même plus, bah, vous voyez le personnage, il est fait avec des petits pixels carrés, comme Mario. Vous voyez le premier Mario sur, il est fait avec des pixels carrés, bah, le pixel art, c'est ça.
Sur un tag, par exemple, un tag, ou même maintenant, c'est la mode dans les bureaux, j'ai vu
les post-it.
En post-it.
Ouais, faire des post-it sur les fenêtres.
Ça, c'est cool.
Ouais, c'était pas une banque bien. Qui avait commencé en plus, je crois.
Ouais, c'est fort possible. Ouais.
Une banque?
Ouais, une banque qui avait commencé.
Putain la vache.
Un mec dans une banque qui avait commencé à mettre des post-it et quelqu'un avait répondu en face.
Mais oui, c'est la fête, on met des post-it partout et on s'en fout de l'environnement. Oh là là. Non, moi je voulais juste dire que le pixel art, je trouvais ça vachement sympa, mais il y a un moment, enfin moi ça me saoule. Parce que les gens, ils font tous du pixel art tout le temps. Et ça commence à me saouler. À chaque fois, t'es sur internet et là, t'as un mec qui te sort du nouveau pixel art. T'étais là, mais mec, enfin ça suffit. Il y a d'autres genre artistiques. Le pixel art, j'en ai marre. Moi, ça commence à me saouler.
Non, mais c'est très bien le pixel art. Je trouve ça cool, moi.
Non, c'est vachement sympa.
Ouais, j'aime bien aussi. Hein.
Mais bon, voilà, c'est franchement aller sur internet, trouver, taper pixel art et vous allez voir des trucs.
Des trucs super sympas.
Même fait en Lego et tout, c'est monstrueusement classe. Donc, je vous invite à aller sur Google
et vous tapez pixel art.
Art et images.
Exactement.
Parce que vidéo, tu trouves des trucs, recherche,
Gmail. Vidéo, tu peux trouver, ouais. Tu sais, la vidéo dans la ville de New York où t'as des pixels qui tombent du ciel.
Ou même le morceau de Rim Draglet que j'ai passé
exactement.
La semaine dernière.
Voilà.
Si vous allez sur l'onglet Gmail, vous trouvez rien, à part si vous avez un contact qui s'appelle Pixel Art. Sur traduction, ce sera peut-être traduit. Sur Google Maps, il y a peut-être une ville qui s'appelle Pixel Art, je ne sais pas. Donc essayez
une
un peu
du
tout.
Sud du Poitou-Charentes, je pense.
Essayez un peu tous les onglets et puis. Bah vous nous direz sur la page Facebook
si vous avez trouvé des trucs sympas, vous publiez ça.
On les passera dans les émissions, on les montrera. Comme c'est
on les montrera
radio.
À la radio.
Comme ça, personne ne les verra, mais nous on sera contents.
Voilà. Allez, ce coup-ci on vous dit vraiment à plus. À la semaine prochaine tout le monde, gros bisous à tous.
Salut tout le monde.
Salut.